modification, la construction d'un budget départemental, ce n'est pas un produit hors sol. Nous ne sommes pas quelque chose de hors sol, nous sommes dans un contexte national. Et bâtir un budget départemental dépend éminemment de la politique qui est menée par le gouvernement, bien sûr. Un chiffre suffit pour illustrer le propos. Sur un budget réel plus d'ordre de plus de 428 millions, le seul levier que nous ayons à notre disposition, le seul effort direct que nous ayons à notre disposition, c'est le foncier bâti qui dépasse tout juste à peine 67 millions d'euros. Donc tout le reste est éminemment fonction des dotations que nous percevons du gouvernement de l'État. Voilà. Donc ce qui se passe autour de nous est extrêmement important. Donc, hier soir, comme beaucoup de collègues, sans doute des citoyens français, j'ai regardé l'intervention de François Hollande. Parce que j'imaginais bien que dans son propos, compte tenu du délitement de la situation, il serait question, à un moment ou à un autre, des collectivités territoriales. Et je n'en regrette pas d'avoir écouté. D'ailleurs, j'ai toujours écouté, depuis que j'ai accédé à la vie d'adulte, j'ai toujours écouté, autant que je me souvienne, les interventions de tous les présidents de la République, les vœux de Nouvel An, mais également de leurs interventions au fil du temps, parce que la République est blessée, et que ça, dans tous les citoyens sont concernés. Je voudrais vous rassurer de suite, mon électrocardiogramme est resté plat. S'agissant de l'impulsion cardiaque, toute ma capacité d'admiration pour le président de la République s'est arrêtée au mois d'avril 1969, lorsque le général de Gaulle s'est retrouvé. Depuis cette date, je n'ai plus aucune faculté de produire une admiration pour quelque président que ce soit depuis cette date-là. Je considère que nous avons ici en régression pour nous retrouver à l'état et à la situation où nous sommes aujourd'hui. Donc, électrocardiogramme plat. Électroencéphalogramme maintenant, parce que je m'étais quitté de tous les côtés hier soir. Alors, électroencéphalogramme plat. Moi, je vais rester déçu. Je laisse la déception aux collègues qui sont face à moi, parce que personnellement, je n'attendais rien, je n'ai rien attendu de façon là, donc je ne pouvais pas être déçu. Les déceptions, j'en ai entendu, c'est plutôt du côté de Mélenchon et des alliés de François Hollande qui font les chercher des déceptions de l'image parfois. Je ne disais pas que l'envers de grossier de Mélenchon, son bras droit, il y a quelques jours, parlant de salopard, etc. Mais donc la déception, vous ne m'entendrez pas utiliser ce qualificatif, je le laisse à l'autre. Néanmoins, j'ai essayé avec beaucoup d'intérêt parce que j'avais atteint ces 60 engagements de candidats face au Hollande, parce que je savais bien que vous avez des surprises, des agarres, sur le point, que des agarres. Et j'ai noté, au fil de ces interventions, les nombreux engagements du candidat Hollande qui était laissé sur le bord du chemin depuis hier soir. On n'a pas fait les déplacements pour hier. Alors, s'agissant du 18e engagement sur les retraites, on a entendu quand même hier soir quelque chose d'extrêmement important, puisque François Hollande a admis que pour régler le déficit des caisses de retraite, eh bien, ce qui était lié précédemment à la gestion présidentielle, réforme Fillon, etc., quelle que soit la réforme, on niait qu'un jour ou l'autre on serait au fond du monde. Eh bien, hier, il a admis et il a reconnu. Il y avait nécessité, du fait de l'enlèvement d'années, etc., il y avait nécessité d'allonger le nombre d'années de cotisation. Il l'a dit, mais je ne l'ai jamais entendu dire ce propos. Toute la campagne électorale s'est maintenue lui-même ou ceux qui parlaient de son nom en disant nous rétablirons la retraite à 60 ans. Alors Jacques Gavani, pour interdire les choses tout à l'heure, je vais prendre poursuivre mon propos. Donc, exit le 18e engagement sur la retraite. Les 11e, 12e et 13e engagements qui portent tous les trois sur les relations que nous avons avec l'Union européenne. Et bien, j'ai entendu un président de la République un peu penaud qui a fait un aveu d'impuissance en disant je vais essayer de convaincre. Est-ce que l'on peut imaginer une seule fois aujourd'hui parmi nous, en remontant le temps, que Charles de Gaulle puisse aller demander la permission à un vent rompu ou à un Barroso de faire de mener telle ou telle politique en France? C'est inimaginable, c'est pour vous dire souverainité abandonnée, souveraineté abandonnée, dans quelle situation se trouve le président de la République? Il va demander, il va essayer de convaincre ses collègues. Là, j'avoue que j'ai été un peu soufflé, et j'ai demandé à ma femme de m'arrêter pour suivre la suite des événements. Alors, sur le deuxième engagement qui concerne le déficit public, c'est écrit noir sur blanc, moi, président, mais je me ramènerai. En 2013, c'est écrit, vous le savez tous parfaitement, je ramènerai le déficit public à 3% du PIB. Donc, on sait aujourd'hui que tout ceci est une promesse qui ne sera pas tenue. Le président et le Premier ministre n'ont pas voulu, nous serons loin de cet objectif du 3% du PIB en 2013, et la dette va continuer à augmenter, bien sûr, et la prochaine et l'année après. Au plan économique, ce sont les premiers engagements du candidat, le 3-4, on dit là, au niveau de la situation économique, et quand même on voit ça, parce que tous les jours, on a mis le chômeur de bus, les derniers chiffres sont presque le record du ministère de Sécurité, et peu importe, on atteint le record encore, c'est toujours mauvais les records que nous battons en ce moment. S'il avait été tenu d'un peu plus près du rapport gallois. Le rapport gallois, il plaidait, le gallois n'a jamais fait le ministère de son orientation à gauche, mais il aurait fallu tenir un peu plus compte du rapport gallois, mais qui succède à beaucoup d'autres rapports. Les rapports s'accumulent sur les bureaux du Premier ministre et des petits dans la politique, sans qu'ils ne soient jamais mis en œuvre. Et le rapport gallois plaidait pour un choc immédiat pour la compétitivité. Et là, je m'arrête quelques instants parce que qu'est-ce que on nous a proposé, qu'est-ce que le gouvernement et le président de la République, ou le président de la République et le gouvernement nous ont proposé sur ce terrain du choc nécessaire à la compétitivité? Eh bien, on nous a présenté un crédit d'impôt compétitivité. Alors, je vais vous rappeler ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas ce que PME, petite industrie, commerce, etc. Eh bien, ça a été annoncé, je vous rappelle, en 2012, immédiatement après la déclaration de la loi, on a annoncé que c'était très bien ce que disait la loi et qu'on allait faire un peu, mais sous une forme particulière. Ça, c'est un crédit d'impôt compétitivité. Annonce 2012, donc aucun effet immédiat, évidemment, en 2012, sur les chômeurs qui s'allongent devant les portes de fonds de la loi. En 2013, zéro action, zéro efficacité, parce que précisément, les conséquences du crédit d'impôt elles résulteront des salaires qui seront attribués en 2013, et ça sera imputable en 2014. Alors, entre 2012, l'effet d'annonce a été fait en 2012 et la mise en œuvre efficace et concrète de la mesure au niveau des PME se produira au premier semestre de 2014, combien de PME, combien d'entreprises, combien de gens allongeront la colonne des demandeurs d'emploi, devant Pôle emploi. Donc vous voyez, l'inefficacité, c'est parce qu'on renvoie toujours dans le temps quelque chose qui devait être immédiatement mis en application. Alors, il y a un autre engagement, évidemment, qui nous intéresse tous, qui nous interpelle, c'est le fameux 54e engagement. Je le connais mieux que les engagements de la Constitution américaine, mais les engagements des candidats. Voilà. Le 54e engagement. Le 54e engagement, eh bien, il évoquait le pacte de confiance à mettre en œuvre avec l'État, le gouvernement, les forces politiques aux affaires, les politiques au pouvoir, et les collectivités locales. Et il était dit que les dotations seraient maintenues au niveau, donc, antérieur, à l'élection présidentielle. Eh bien, qu'est-ce que l'on constate? C'est que, désormais, on le sait, ce n'est plus une interrogation, on sait que les dotations de l'État aux collectivités territoriales, ça peut changer encore en pire d'ici à la fin de l'année, avant que le budget 2014 soit voté, mais aujourd'hui, c'est arrêté à moins 1,5 milliard de dotations sur l'enveloppe nationale à l'égard des collectivités territoriales. Et on ajoute qu'à lesquelles, ça y en a une réduction d'1,5 milliard en moins, ça fait sur le 2,6, 3 milliards de moins, et on peut rajouter les conséquences du budget des dotations précédentes via les délégations, qui dit que ça fait 4,5 milliards de manque à gagner pour les collectivités territoriales. Alors, face à cela, nous attendions tous aussi, pour cet engagement qui nous concerne directement, puisque nous sommes les champions du monde sur la planète de la dépense publique. Tout le monde dit qu'on est mieux. Et ça fait des années que ça dure. Il fallait attendre, y a-t-il des propositions sur le domaine de la dépense publique? Alors, à l'exception de la capitalisation de l'humain, qui sont tout à fait ridicules par rapport à la situation dramatique dans laquelle se trouvent nos entreprises actuellement par rapport aux migrations extérieures, on attendait des mesures de choc. Moi, j'aurais bien qu'ils nous disent, on va engager de grandes réformes de l'État, on va diminuer par deux le nombre de députés, on va diminuer par deux le nombre de sénateurs. Actuellement, on va dire, les députés, les sénateurs, le gouvernement pléthorique, les députés européens, il y a plus de 1000 personnes qui assurent les responsabilités de l'État actuellement. Nous sommes records du monde national, et dans tous les domaines, il n'y en a pas été. Mais le président, il a eu un gisement immense des économies sur la terre, avec une bonne qualité, et bien rien n'a été annoncé. Je vais vous dire quelle a été, regardez que ce discours se termine, parce que ça a été trop attardé. Mais en fait, j'ai écouté jusqu'au bout, et voilà donc quelle est mon interprétation personnelle. Alors je pense que ça va être difficile, et je crois qu'aujourd'hui, le président a déjà battu tous les records des popularités au bout de 10 mois d'exercice. Il y a les présidents de la République sur la 5e République, il y en a plus déjà tous les records, et déjà les premiers chiffres que l'on a prouvent que hier soir il n'a convaincu personne. On n'a qu'à faire la revue de presse ce matin, pour ça qu'on fait, s'il y avait. Voilà donc un mot que je souhaitais dire quand même sur ce qui s'est passé hier soir, la veille de notre budget en 2013. C'était la conjonction des dates rendait impossible le fait que nous ne parlions pas de ce qui a été dit, d'autant que ça nous concernait directement. Alors j'en viens maintenant, évidemment, un peu plus précisément, à notre projet de budget pour 2013. Ce qui se passe aujourd'hui, nous l'avions déjà largement amorcé il y a un peu plus d'un mois, dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Nous avions, ceci avait été largement amorcé, parce que ce débat d'orientation budgétaire avait été marqué par des précautions de langage. Des précautions de langage sur, et je l'avais souligné il y a un mois et demi, sur, il faut que nous l'ayons disons mieux au fond, sur les variables d'ajustement. C'est revenu une demi-douzaine de fois dans les documents du débat d'orientation budgétaire, cet élément de variable d'ajustement. Et c'est ainsi que nous avons rappelé il y a un mois et demi que dans les budgets départementaux, c'était les budgets d'investissement qui devaient devenir la variable d'ajustement de l'équilibre des budgets départementaux. Et puis un peu plus loin, on disait, et puis finalement, au-delà de l'investissement, ce sont les budgets départementaux, investissement et fonctionnement confondus, qui doivent devenir, à leur tour, les variables d'ajustement des économies que l'État va faire. Puisque l'État ne veut pas réduire la dépense publique en faisant tout ce que je disais tout à l'heure, eh bien, il se retourne vers qui ? Il se retourne vers les collectivités territoriales, c'est-à-dire vers les départements, notamment avec les diminutions de subventionnement que j'ai indiqué tout à l'heure en 2014 et autant en 2015. Donc, voilà, lors du débat, nous étions préparés psychologiquement, en quelque sorte, aux mauvaises nouvelles d'aujourd'hui. Et lors du débat budgétaire, j'étais revenu sur un visage privé de notre débat d'il y a un an. J'étais revenu sur la déclaration, j'avais dit dithyrambique, de notre collègue responsable du groupe socialiste, qui m'avait répondu avec sa foi de militant. Donc j'ai dit acte de sa réponse, mais la situation est toujours la même, toujours aussi difficile, de plus en plus difficile. Mais j'aurais pu aussi noter, je vais le faire, j'aurais pu revenir sur ce même procès Laval, sur ce que déclarait notre collègue Laval à cette époque-là, puisque lui aussi, et aussi notre collègue, en disant qu'il prenait mes propos de haut, en disant que j'ironisais, une règle facile, puisque sur les hypothèses de croissance, par François Hollande, le chiffre d'augmentation du PIB en 2013 devait être de 0,7%. Non seulement de 0,7%, mais de 0,7%. Or, on sait qu'il n'y aura pas d'augmentation, d'autant plus qu'il y en aura en 2013. Voilà un peu, c'est pour ramener un peu les pieds sur terre, parce qu'il faut qu'on ait les pieds sur terre, nous les élus locaux, il faut que nous ayons suffisamment les pieds sur terre. Alors pour prolonger, après avoir parlé du jaune, peut-être un retour en arrière sur le jaune, il faut parler d'une juridique qui nous a été passée. Le document que j'ai examiné, il datait, il est déjà périmé au moment où l'a reçu, puisqu'il a indiqué, la réduction du déficit public à 3% du PIB en 2013. Donc, il n'y avait pas de point d'interrogation, c'est la première page du rapport par le Sassin, qui a indiqué donc que le déficit public serait de 3%. Cela s'est déclaré aujourd'hui. Et puis après, ce gel traduit la nécessaire participation des collectivités locales à l'objectif de redressement des finances publiques. Contribution des collectivités, pas aux collectivités, c'est pas lesquelles, qui va contribuer au fonctionnement des collectivités, c'est les collectivités qui vont contribuer au fonctionnement de l'État. Si je tourne la page 2 du rapport budgétaire, il y a également. Vous mettiez, il y a deux chiffres à mettre en parallèle, vous indiquez que le gouvernement s'inscrit aux difficultés des départements, met en œuvre un fonds de financement de solidarité au national de 168 millions d'euros au national, mais le paragraphe après, il est rappelé que l'ensemble des collectivités et départements ont un manque à gagner de 6 milliards d'euros. C'est juste le paragraphe à dessous. Alors mettre en parallèle. 6 milliards d'euros qui s'expliquent bien sûr parce que nous nous compensons, etc., avec personne une compensation. Quand on met ça en rapport des 6 milliards qui est difficile pour les départements, avec les 170 millions de fonds de solidarité sur lesquels nous comptons 170 millions, je crois que vous avez dit, et bien plus, je l'ai aussi.
780
millions
sur la première partie.
C'est une goutte d'eau.
Et on en demande
autant. Voilà, c'est une goutte d'eau. Je sais bien que vous le dites. C'est une goutte d'eau par rapport au chiffre déficit dans lequel nous sommes confrontés. Voilà. Alors, pour en finaliser, je vais vous donner des petits résultats que je ne veux pas lâcher mes collègues. Mais je voudrais revenir maintenant pour. Vous avez, là il y a une main sur vos choix stratégiques, la cour des comptes, les cours des comptes demandent un recentrage sur vos compétences obligatoires pour s'en sortir. La cour des comptes plaide pour l'abandon des cofinancements. On a rétabli la clause générale de compétences, mais d'une certaine façon, la cour des comptes revient sur cette décision malheureuse d'avoir supprimé cette clause de compétences générale en disant mais, non, elle rétablit cette clause de compétences générale, mais il conviendrait d'éviter les cofinancements, c'est environ même à peu près. Donc, malgré toutes les préconisations, les améliorations des cours générales des comptes, vous refusez, vous le dites chaque fois, que votre politique ne saurait se contenter à se recentrer sur nos compétences obligatoires. La force des choses vous y conduira. On le verra en 2014, parce que vous parlez également d'une aisance budgétaire. D'une aisance, oui, alors c'est vrai que pour bâtir, pour équilibrer le budget de 2013, il y a le texte, il y a une aisance budgétaire qui ne se reproduira pas. Elle s'explique par le fait. Nous avons soldé tous les emprunts qui avaient été votés, qui n'avaient pas été mobilisés. Donc là, on a purgé, les compteurs sont revenus à zéro, on a récupéré une recette exceptionnelle de 21 millions d'euros sur ces emprunts qui désormais sont mobilisés, et ça ne se reproduira pas, puisque l'an prochain, il y aura 2500 euros, et vers des tas extrêmement difficiles. Dans un contexte extrêmement concret, et je crains, encore une fois, que nous soyons réduits à en venir finalement sur nos compétences obligatoires. Voilà, essentiellement, le dernier motif stratégique de l'obligatoire, je ne reviens pas sur les engagements sur la prochaine aspect dont j'ai parlé tout à l'heure, qui fait partie de ces compétences non obligatoires, mais c'était pour illustrer le propos. Donc, bien évidemment, M. le Président, bien, vous comprendrez que la suppression, je ne vote pas ce budget.